Bonjour, c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au sommaire aujourd'hui. L'info du jour, la signature de 8 contrats de territoire pour lutter contre les algues vertes. Plus on est de fous, c'est la carte blanche santé mentale d'usagers en psychiatrie qui nous emmène ailleurs aujourd'hui. Il y aura de la musique dont une nouveauté, le premier épisode d'un podcast sur la place des enfants en ville avec le sociologue Clément Rivière et puis 2 recommandations de rencontres. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Allez, comme chaque jour, on commence avec l'info du jour que j'ai retenue pour vous, un mois avant la sortie en salle officielle du film de Pierre Jolivet, Algues Vertes. Et cette info du jour, eh bien, c'est la signature de 8 contrats de territoire pour lutter justement contre les algues vertes en Bretagne. Ça s'est passé la semaine dernière, mercredi 7 juin. Ces contrats, ils sont passés entre la préfecture, le conseil régional, l'agence de l'eau et 8 structures bretonnes, des communautés de communes et des syndicats mixtes des côtes bretonnes qui sont concernés par ce problème des algues vertes. Cette signature, elle fait en fait partie d'un plan plus global, un plan de lutte contre les algues vertes pour la période 2022-2024, le troisième plan depuis 2009, copiloté par l'État et la région. Son montant, cette fois, 130 millions d'euros. Et petite nouveauté, des zones sous contraintes environnementales sont créées où les exploitations agricoles ont des objectifs de baisse des taux de nitrate. Les contrats de territoire, pour continuer là-dessus, c'est en fait un outil de prévention, 18,3 millions d'euros pour financer des actions afin d'améliorer la qualité des eaux, je cite, à travers l'accompagnement des agriculteurs vers des systèmes plus vertueux, la restauration de zones humides ou encore des aménagements bocagers. Il est précisé dans le communiqué qu'aujourd'hui, 70% du budget agricole de la région Bretagne est tourné vers l'agroécologie et les transitions. Pourtant, rappelons-le, seuls 11,5% des fermes sont en agriculture biologique, un indicateur que le modèle dominant dans la région, c'est encore l'agriculture conventionnelle et pour un moment. En 2024, un bilan sera réalisé pour voir si les objectifs des contrats de territoire lancés ont été atteints. Et en fonction des résultats, les exploitations agricoles bénéficieront d'un accompagnement ou de sanctions, à lire les mots de la préfecture. Un nouveau plan de lutte contre les algues vertes qui comprend aussi la mise en place d'un réseau de capteurs d'hydrogène sulfuré sur les sites les plus sensibles. Et tiens, une plage à Ilion dans les Côtes d'Armor vient d'ailleurs de fermer en raison d'émanations trop élevées durant le week-end. Pour plus d'infos sur ce troisième plan de lutte contre les algues vertes, il y a un site dédié algues-vertes.com. Et après cette info du jour, c'est l'heure de Plus on est de fous, une carte blanche santé mentale qui est proposée par des usagers en psychiatrie. C'est chaque deuxième lundi du mois et aujourd'hui, on nous parle d'ailleurs. Bonjour tout le monde, c'est Beryl. Aujourd'hui, une nouvelle carte blanche, Plus on est de fous, dans l'émission L'Arène sur Canal B. Plus on est de fous est un collectif d'usagers de la psychiatrie qui réfléchit sur les troubles psychiques, sur leur prise en charge, mais aussi sur le regard porté sur eux. Le collectif essaye d'esquisser des pistes pour que nos liens avec les soignants et les structures institutionnelles s'améliorent et que le regard porté sur le mal-être psychique soit moins sévère et stigmatisant. Ce qu'on présente ici, pour résumer, c'est la lutte pour que nos paroles puissent enfin être entendues. Aujourd'hui, le titre de la carte blanche est « Plus on est de fous, ailleurs », ailleurs signifiant à quelques autres endroits du monde. Pour commencer, Anne-Pauline vous proposera des points de vocabulaire autour de la notion d'ethnopsychiatrie. Ensuite, Anaïs présentera une confrérie populaire du Maroc qui pratique des rituels de possession. Puis Yann vous parlera des différences entre le modèle individualiste libéral, très marqué aux États-Unis, et le modèle institutionnel que l'on connaît surtout en Europe. Les copains, vous pouvez en dire un peu plus sur vous ?
Alors moi c'est Anaïs, je me situe plus du point de vue des familles,
Moi, c'est Yann. Donc, j'écris des articles sur la santé mentale à Rennes. Et mes articles sont publiés sur le site internet InfoPsy Rennes.
Et moi, bonjour à tous, c'est Anne-Pauline. Je suis usagère en psychiatrie et artiste-auteur. Du coup, si on veut s'intéresser à la psychiatrie ailleurs, il faut d'abord aborder la notion d'ethnopsychiatrie, soit l'étude des troubles psychiques en fonction de l'appartenance ethnique du patient. On parle d'ethnopsychiatrie ou psychiatrie transculturelle, un domaine de recherche partageant objets et méthodes, tant avec la psychologie clinique qu'avec l'anthropologie culturelle. L'ethnopsychiatrie s'est intéressée aux désordres psychologiques en rapport à leur contexte culturel d'une part, au système culturel d'interprétation et de traitement du mal, du malheur et de la maladie d'autre part. C'est dans les années 50 que l'on voit apparaître ce terme, d'abord chez Louis Mars, un psychopédagogue haïtien, qui s'intéressait tant au vaudou qu'à la décolonisation. À l'époque, d'autres termes techniques, comme psychiatrie exotique et psychiatrie comparée, étaient déjà largement employés dans la médecine coloniale. Plus tard, le terme sera repris en France en 1954 au cours d'un séminaire dispensé par Georges Devereux, qui est considéré comme le père fondateur de la discipline. Liée à l'anticolonialisme, l'ethnopsychiatrie, comme bien d'autres disciplines à préfixe ethno, ethnobotanique ou ethnomathématique, admet comme prémisse que des peuples n'ayant pas de tradition écrite possèdent une pensée savante sur le monde. Malgré leur caractère populaire, ces ethnosciences constituent de vrais savoirs qui, en tant que tels, concernent l'humanité entière. Il s'agit de considérer cette notion plurielle, car il y a une ethnopsychiatrie par groupe de population. Et c'est ce qui est vraiment passionnant. La psychiatrie occidentale est d'ailleurs elle-même une ethnopsychiatrie.
Cela dit, il faut nuancer, car l'ethnopsychiatrie se heurte cependant aux critiques des tenants de l'universalité de la psychiatrie ou de la psychanalyse qui se positionnent contre le relativisme culturel. Il faudrait dépasser ce clivage pour aborder la complexité des cas.
Toby Nathan, que j'ai croisé dans mes recherches, est disciple contemporain de Georges Devereux. Il a renouvelé le champ de la discipline en France en créant en 1979 la première consultation au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Avicenne de Bobigny. En 1993, il fonde le centre Georges Devereux, centre universitaire d'aide psychologique aux familles migrantes, au sein de l'unité de formation et de recherche psychologie pratique clinique et sociale de l'Université de Paris 8. Ce centre regroupe dans un même espace une clinique spécifique, des recherches universitaires en psychopathologie et en psychothérapie, et la formation des étudiants de troisième cycle. Toby Nathan pense que c'est un scandale intellectuel de traiter des patients étrangers avec les connaissances de chez nous, alors qu'il faut se demander quelles sont les richesses des autres mondes qui se présentent par l'intermédiaire des imaginaires, pensées, coutumes, traditions et savoirs. L'ethnopsychiatrie sera une tentative d'aller à la rencontre, d'aller explorer les pensées savantes des mondes différents, qui ne sont ni des croyances, ni des pensées secondaires, ni des symboles, mais bien des savoirs.
Je trouve que Toby Nathan, en utilisant le seul prisme culturel pour aborder ses patients, peut les enfermer dans une case. Cette vision essentialiste établit que l'homme n'est déterminé que par sa culture et qu'il ne peut agir sur celle-ci. Même si le contexte culturel doit être pris en compte, ce qui appartient à l'individu doit aussi être au centre du travail de soins.
Et au cours de mes recherches, j'ai aussi croisé le travail de Marie-Rose Moreau, une pédopsychologue, psychanalyste et professeure à l'université, qui a mené la consultation d'ethnopsychanalyse à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Elle reçoit des familles issues de la diaspora venant d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'ailleurs. J'ai découvert son travail dans un film documentaire intitulé « J'ai rêvé d'une grande étendue d'eau » réalisé par Laurence Petit-Jouvet en 2002.
Quand vous êtes tous les deux tout seuls, il crie jamais. Donc c'est bien des cris qui expriment quelque chose, qui disent quelque chose. Hein ?
La consultation d'ethnopsychanalyse se déroule en collectif, réunit un groupe de professionnels polyglottes autour d'une famille, en général psychologues cliniciens, mais aussi médecins, psychiatres, anthropologues, linguistes. Autour de Marie-Rose Moreau, les co-thérapeutes sont originaires du Soudan, Togo, Maroc, Côte d'Ivoire, Kabylie, Irak, Allemagne, Portugal, etc. Au moins l'un d'entre eux parle la langue maternelle de la famille et connaît, pour les avoir plus particulièrement étudiés, les habitudes de soins ayant cours dans l'environnement habituel de la famille. Donc, il peut s'agir par exemple de séances avec un guérisseur, de rituels de possession, d'une pharmacopée particulière. Les autres, spécialistes d'autres régions donc, nourrissent les séances des histoires et des images qu'ils portent en eux. Le référent qui a conduit la famille parle d'abord, explique ce qu'il attend de cette consultation, expose ce qui, à son sens, constitue les difficultés, les souffrances et la problématique de la famille. La consultation d'ethnopsychanalyse est aussi une procédure de traduction, favorisant l'expression dans la langue maternelle. Le récit et l'interprétation des rêves y tiennent une grande place pour s'approcher des pensées inconscientes. Et c'est un lieu d'invention, mais aussi un espace clinique d'exception où se déroule un travail extrêmement sensible, dont la tâche principale est de rendre sensible l'invisible. Une citation pour finir. On fait attention aux êtres, qu'ils soient humains, non humains, vivants, non vivants.
Merci Anne-Pauline. Partons maintenant au Maroc pour étudier un rituel thérapeutique ancestral, toujours en pratique aujourd'hui, étudié et détaillé avec soin par Anaïs.
Cette intervention fait suite à une recherche ethnologique menée au Maroc de 2009 à 2014. Je me suis intéressée à un rituel de possession thérapeutique pratiqué par les Gnawa, une confrérie populaire marocaine. Au Maroc, lorsqu'on a des maladies physiques ou mentales, on peut en attribuer la cause à des esprits possesseurs. Pour se guérir, il convient d'agir sur ces esprits. Le culte de possession gnawi a pour vocation de soigner les patients en satisfaisant les esprits possesseurs pour qu'ils laissent le patient en paix. C'est ce qu'on appelle l'adorcisme. Cela est différent de l'exorcisme, qui est une pratique qui fait sortir les esprits du corps des patients. Pour envisager cela, il est nécessaire de nous départir de notre vision occidentale et de reconnaître l'existence du monde de l'invisible dans la société marocaine. La plupart des Marocains sont musulmans et selon le Coran, le monde est peuplé de ce qu'on voit, mais également des djinns qui partagent l'existence des humains, mais eux sont invisibles. Ces djinns, ces esprits, interfèrent parfois avec le monde des humains. Par exemple, un djinn peut se marier à un humain. Bien souvent, le célibat d'un homme ou d'une femme d'un certain âge est expliqué par un mariage avec un djinn. Le djinn peut aussi entrer en possession d'un humain, et la possession est souvent le résultat d'un sort, d'un poison, ou bien du mécontentement d'un esprit. La pratique de la sorcellerie est très présente au Maroc, de nombreuses personnes y croient et la vivent. À la différence d'autres rituels, il n'y a pas de substance pour entrer en contact avec les esprits. Parfois, les adeptes fument du kif, les feuilles de cannabis, mais cela n'est pas systématique.
Est-ce qu'il y a des psychiatres au Maroc ?
Il y en a, mais très peu. Et les maladies physiques et mentales ne sont pas séparées au Maroc. Par exemple, si une personne entend des voix, a des comportements qu'elle ne maîtrise pas, est stérile ou bien ne correspond pas à la norme sociétale, par exemple est homosexuelle, prostituée, célibataire, cette personne s'oriente ou est orientée par sa famille vers des acteurs qui n'appartiennent pas au corps médical. L'orientation vers un psychiatre est rare. Dans ces acteurs, il y a par exemple les mokadmates, les guérisseuses, qui communiquent avec le monde de l'invisible. Il est aussi possible de se tourner vers des fakirs, ce sont des savants de l'islam qui utilisent les versets du Coran pour la guérison. On peut aussi s'adresser à des voyantes, chouafates, qui pratiquent la sorcellerie. Sa famille peut aussi lui conseiller d'aller faire des offrandes à un saint pour demander la guérison. Les mokadmates guérisseuses, les mokadmem guérisseurs qui nous intéressent ici, sont affiliés à une confrérie populaire. Le patient va les voir quand il pense que l'origine de ces maux est provoquée par un esprit possesseur. Il y a au Maroc de nombreuses confréries populaires, telles que les Issawa, les Amatcha, les Gilala. Le lieu de rassemblement de la confrérie s'appelle une Zawiya et abrite le tombeau d'un saint. Ces confréries célèbrent un saint, mais ont aussi un rôle social, thérapeutique, dans la société marocaine. La transmission des savoirs se fait essentiellement à l'oral. La pratique du spirituel, de l'islam, ne se cantonne pas qu'aux mosquées, bien qu'il soit à noter que l'islam rigoriste, la bureaucratie et la folklorisation tendent à vider les confréries de leurs fonctions symboliques. Ici, c'est la confrérie populaire des Gnawa que nous allons observer. Cette confrérie est un peu différente des autres. La renommée et l'efficacité thérapeutique des Gnawa découlent du fait que ces adeptes travaillent avec des djinns qui viennent de l'Afrique subsaharienne, des esprits forts et invincibles dans l'imaginaire collectif.
Pourquoi les Gnawa traitent avec des esprits de l'Afrique subsaharienne alors qu'ils se trouvent au Maroc ?
Souvent, l'origine de ce culte de possession est expliquée par la présence de descendants d'esclaves ayant été vendus au Maroc lors de la traite négrière. Au XVIe siècle, le sultan Ismaël s'est entouré d'une garde noire. Ceux-ci ont alors ramené leurs pratiques rituelles, venant essentiellement de l'ancien Soudan, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons d'ailleurs noter que dans le rituel, il y a de nombreux morceaux avec des mots Bambara, une langue d'Afrique de l'Ouest. Les Gnawa, pour s'intégrer au paysage marocain, se sont inspirés du modèle des confréries populaires existantes et ont ajouté des saints locaux dans leur système de croyance qui est à la base axé sur l'animisme. Ils se sont affiliés à Sidna Bilal, le premier musim du prophète, qui était un esclave noir affranchi. Donc le musim, c'est celui qui fait l'appel à la prière. Ils ont construit une zaouia, le lieu sacré de rassemblement, qui se trouve à Essaouira. Et au fil du temps, ils ont intégré de plus en plus de figures de l'islam dans leurs rituels, pour évidemment être acceptés. Petit à petit, les Arabes et les Amazirs se sont retrouvés dans ce culte et ont fait appel au service des Gnawa. Ils se sont affiliés à la confrérie. Un groupe n'est jamais étanche, de même qu'un rituel n'est jamais figé. L'aspect situationnel et relationnel remodèle toujours le groupe et le rituel. La confrérie est composée donc de prêtresses ou de prêtres spirituels, de maîtres, appelés malem. Le maître a un rôle important, c'est le joueur de gambri. Devenir maître est un long processus qui dure de 20 à 30 ans, car il y a aussi tout un savoir philosophique, culturel à s'approprier. Et puis il y a les couyous, c'est des danseurs qui jouent aussi des carcabes. Et enfin, évidemment, les patients qui sont les possédés. Les praticiens du culte Gnawa pratiquent cela en famille et les savoirs se transmettent de génération en génération. On peut noter de nombreuses alliances entre les familles Gnawa. Par exemple, souvent, un maître se marie avec une mokadma, une voyante thérapeutique. De nombreux possédés font appel aux Gnawa pour guérir. Souvent, les classes aisées tentent la médecine occidentale avant de faire appel à la confrérie. Les classes populaires ont d'abord tendance à se tourner vers les Gnawa.
Concrètement, si j'entends des voix, par exemple, vers qui je me tourne? Qu'est-ce que je dois faire?
Si une personne entend des voix, c'est-à-dire qu'elle pense qu'elle est possédée, elle se rend chez une mokadma, celle qui occupe la fonction de guérisseuse dans le culte. C'est celle qui communique avec les esprits. Elle-même est possédée. Lors d'un premier entretien, la mokadma va écouter le possédé et tenter d'identifier le djinn qui le possède afin de nouer une relation avec lui. Elle va faire appel à un maître Gnawa qui joue du gambri. Celui-ci va jouer plusieurs morceaux du répertoire sacré. Dans la partie sacrée, chaque morceau appartient à un génie, un djinn. Le patient va entrer en transe dans le morceau de son djinn. C'est comme cela que l'esprit possesseur sera identifié. Ensuite, le patient va confier son hamel à la mokadma. Le hamel, c'est le poids qu'il porte sur lui. C'est symbolique. Ça se matérialise par des encens, des vêtements, des affaires personnelles. Donc le patient va lui donner ses affaires pour que la mokadma prenne ce poids sur ses épaules et commence un travail avec les esprits en dehors de sa présence. Lors de cet entretien, la mokadma qui fait parler ses esprits va lui donner des instructions à faire à la maison. Comme par exemple, mettre ce type d'encens tel jour, ne pas manger salé tel jour, aller visiter le tombeau d'un saint tel mois. Mais la prescription principale est de faire une lila. Une lila est un rituel qui dure en général une nuit. Lila veut dire nuit en arabe. Le rituel peut même durer trois jours. La mokadma s'appuie beaucoup sur ses rêves pour aiguiller le possédé. Elle répète ce que ses esprits lui ont dit dans ses rêves. Dans le rituel Gnawi, les adeptes se disent « tslim », c'est-à-dire « soumis aux esprits ». Lorsque le possédé est d'accord pour faire une lila, la mokadma va chercher des musiciens Gnawa pour pratiquer le culte de possession. Le maître n'est pas qu'un simple musicien de gambri, mais il a une connaissance fine du répertoire, des esprits et de leurs particularités. Il a lui-même ses jouades, ses esprits protecteurs.
Est-ce que le rituel suit toujours les mêmes étapes ?
Le rituel est bien sûr mouvant et s'adapte toujours aux possédés, à ceux qui assistent à la lila, au maître. Mais pour que celui-ci soit efficient, il y a une démarche à suivre. Beaucoup croient qu'une fausse note lors de la cérémonie peut provoquer la colère des esprits et que les esprits peuvent paralyser, voire tuer les possédés. C'est une manière de sacraliser la pratique thérapeutique. Le lila est un rituel collectif, il y a moult intervenants durant la nuit, c'est donc une prise en charge collective du possédé qui va dans un premier temps déterminer la guérison. Tout le monde est assis par terre, il n'y a pas de hiérarchie marquée dans l'espace, il y a une proximité entre les personnes qui n'existe pas dans d'autres endroits. Le contact physique, la mixité, fait partie de la prise en charge du possédé. Il n'y a plus de barrière sociale, genrée, entre les participants. Le possédé qui fait la lila pour guérir invite sa famille, les voisins. La mokadma peut aussi inviter des membres de sa famille. Le malem et les kouyous aussi. Et dans les invités, souvent, d'autres personnes sont également possédées et vont bénéficier de la dimension thérapeutique du culte, car elles entreront en transe dans leurs morceaux. Il suffit parfois d'entendre le gambri et de franchir la porte de la maison et de s'asseoir au milieu de la foule. D'ailleurs, nous allons écouter un extrait d'un morceau du maître Mahmoud Guinea, un grand maître Gnawa d'Essaouira décédé en 2016, paix à son âme. Il était fier de ses origines d'Afrique subsaharienne, il aimait beaucoup la couleur bleue et les esprits de la mer. C'est pour cela que j'ai choisi un extrait d'un morceau des esprits de la mer, Bara Moussaoui. Est composé de plusieurs parties. Pour l'ouvrir, il est nécessaire de pratiquer un sacrifice. Souvent, la bête est exécutée la veille de la cérémonie. Le possédé sacrifie un animal selon son budget, donc ça peut être une poule, un bœuf, un mouton. La première partie du rituel est dite profane. Elle s'appelle Ouled Bambara, les fils des Bambara. Les esprits ne sont pas encore conviés. C'est une partie où le maître joue des morceaux qui font référence à ses ancêtres, à l'Afrique subsaharienne. Les kouyous exécutent des danses assez spectaculaires. Puis, il y a la partie de la hada. Dans cette partie, le malem et les kouyous sortent dans la rue. Le maître joue du tambour et convie les esprits et les personnes à venir assister à la lila. Et ensuite, la partie sacrée commence. D'abord, il y a des fatahs, c'est des demandes de guérison à Dieu. Ceux qui participent à la lila donnent un peu d'argent aux kouyous et le maître prononce une parole de guérison. L'efficacité thérapeutique réside aussi dans la parole du maître qui demande la guérison pour ses patients. Le maître et les kouyous commencent le répertoire sacré. Le répertoire sacré est divisé en couleurs. Il y en a 7, mais des couleurs peuvent venir s'ajouter. Chaque couleur représente une cohorte de génies. Chaque morceau correspond à un esprit. Durant cette partie, il s'agit de faire plaisir aux esprits possesseurs. Chaque couleur a ses morceaux, mais aussi ses encens, sa nourriture, ses accessoires, ses costumes, ses danses, ses chants, ses notes, son rythme. Il convient de respecter le rituel pour faire plaisir aux djinns. À l'écoute du morceau de l'esprit possesseur, le possédé va entrer en transe. La mokadma va faire respirer l'encens au possédé, et elle va aussi lui mettre le tissu de la couleur de son esprit sur le dos. Elle va l'accompagner lors de sa transe et exécutera des gestes liés aux attributs de l'esprit possesseur. Par exemple, sur la couleur bleue, les moussaouines, les esprits de l'eau, la mokadma arrose le possédé avec de l'eau. Sur la couleur noire, sur les esprits de la forêt, la mokadma se met une peau de mouton sur le corps. Elle a des assistantes pour l'aider, car elle est toujours en activité lors d'une lila. Tout le monde participe, car la mokadma fait sentir les encens, asperge les personnes présentes de fleurs d'oranger et distribue de la nourriture à tous ceux qui sont là. Le maître n'arrêtera le morceau que lorsque le possédé s'évanouit. Il s'évanouit souvent dans les bras de la mokadma. Cela veut dire que l'esprit est satisfait de la musique, des odeurs, des goûts, des pas de danse, mais aussi des paroles. Car la mokadma s'adresse aux esprits quand le possédé est en transe et lui demande de laisser le possédé tranquille. Le maître et les kouyous répondent « Amin, amin ». Je n'ai pas le temps de rentrer sur l'aspect symbolique du rituel, mais finalement chaque morceau révèle l'histoire de la culture orale marocaine. Parle d'avant, de maintenant, de la période pré-islamique, post-islamique, de l'esclavage, de l'Afrique de l'Ouest, des saints connus et moins connus. Il est aussi question des corporations de métiers comme les forgerons, des personnages historiques, des personnages qui appartiennent aux légendes. Et les éléments de la nature sont très présents. Le ciel, la terre, le feu, la mer, la forêt, le fer, la pierre, les animaux. C'est d'une richesse symbolique et poétique infinie en perpétuel renouvellement.
Mais est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a des résultats ?
Après la lila, souvent, vers 10h du matin, la tension est apaisée, les visages sont détendus. Les esprits vont laisser les possédés en paix, jusqu'au moment où ils referont surface. Une lila sera alors nécessaire de nouveau. Je n'ai pas de statistiques, mais l'efficacité thérapeutique tient aussi du fait que durant ce temps, chacun a pu assumer au regard de tous ce qu'il est. Celui qui entend des voix est au centre de l'attention. L'homosexuel n'est pas mal considéré. La femme qui fume devant tout le monde est acceptée. La prostituée n'est pas méprisée. Les femmes peuvent tomber leur foulard lorsqu'elles sont en transe et vivre leur féminité aux yeux de tous. La femme a d'ailleurs un rôle crucial au sein de la confrérie Gnawa. Le rituel est un moyen de rééquilibrer les pouvoirs au sein de la société. La niya, qui veut dire l'intention, est un concept très important dans le rituel. C'est-à-dire que tous ceux qui participent à la lila ont la niya, une volonté de guérir les possédés. Et ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour arriver à cela. On peut peut-être parler de suggestion. Mon interprétation, c'est que ce rituel existe justement pour accepter la singularité. Et ce rituel permet à chacun d'exister tel qu'il est vraiment. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas exister au sein des mosquées, au sein d'un islam sunnite rigoriste. Et c'est aussi cela qui peut provoquer des troubles, le rejet de la société sur ce qu'ils sont. Ce genre de rituel est vital et tend à disparaître à cause de plusieurs facteurs. La marchandisation de la culture, l'intervention du magzem de l'État dans les awiyas, dans les pratiques rituelles, la patrimonialisation de la culture immatérielle, l'intérêt des touristes en recherche de sacré, la professionnalisation des musiciens gnawa contribue également la confrérie à se mettre en spectacle plutôt qu'à respecter leurs fonctions originelles. Enfin, quoique, finalement, ils arrivent peut-être à bricoler, pour reprendre le terme de Claude Lévi-Strauss, et que cette fonction transgressive ne disparaîtra pas. Nous allons finir avec l'extrait d'un morceau du maître Abdella Guinea, décédé en 2013. Paix à son âme, ce maître s'est toujours battu pour que le rituel gnawa reste accessible aux plus humbles. Dans ce morceau, il fusionne avec un autre groupe et sur un air de musique classique arabe, il évoque l'importance de regarder l'intérieur d'une personne plutôt que l'extérieur et à quel point aussi c'est essentiel de respecter tout le monde de la même manière. Voici le morceau Nes Nes dont il a lui-même écrit les paroles.
Oh.
C'était une plongée ethnographique très forte vers un ailleurs qui nous est inconnu en tant qu'occidentaux. Maintenant, Yann va évoquer d'autres pays avec lesquels nous sommes plus familiers.
Dans le monde occidental, on peut cerner deux grands modèles. Le modèle individualiste libéral, États-Unis, etc. et le modèle institutionnel, France, Italie, Argentine, etc. Même s'il faut prendre en compte les spécificités nationales, notamment historiques, cette dichotomie a l'avantage de rendre un peu plus intelligibles les choses. En fait, ces deux grands paradigmes semblent fondés sur des conceptions du psychisme différentes. Aux USA, pays toujours le plus riche et le plus puissant du monde, la psychiatrie a à voir avec le libéralisme économique. En effet, les troubles sont d'abord vus comme un problème individuel lié à la chimie du cerveau. En tout cas, il semble que le dépassement de soi et la volonté individuelle priment. À l'opposé, l'approche institutionnelle part d'une conception de l'être humain beaucoup moins individualisée, où le collectif est perçu comme agissant. Et ces deux systèmes d'idées découlent une prise en charge psychiatrique du patient très différente. Aux États-Unis, les soins sont basés sur la consommation individuelle. En effet, pour chaque patient, on alloue une somme d'argent. Puis, l'individu utilise cet argent comme bon lui semble, en picorant dans la multitude des thérapies proposées. Un peu de yoga, un peu de remédiation cognitive, une dose de thérapie comportementale et cognitive. Tous ces soins ne sont pas coordonnés et reposent sur la liberté de choisir ses soins et les personnes afférentes. Donc, pour se soigner, c'est à chaque personne d'optimiser ses gains dans l'offre thérapeutique en étant seul responsable de son devenir psychiatrique. En France et dans d'autres pays européens, la tradition jacobine et la préoccupation pour la question sociale ont débouché sur une prise en charge bien différente. L'hôpital psychiatrique public et les cliniques privées psy jouent encore un rôle très fort. Le patient n'est pas vu comme un consommateur, mais comme une personne en manque de liens sociaux. Dans ce modèle, on pense encore que l'intégration sociale, la citoyenneté et la vie collective sont aussi des remèdes aux troubles psychiques. Dans cette optique, le mouvement dit de psychothérapie institutionnelle va aller beaucoup plus loin. Selon lui, la structure, la vie collective peut soigner la personne. En tout cas, il faut tout faire pour que l'individu, prisonnier de forces qui le dépassent, puisse trouver un autre rapport à l'autre. Cependant, nous pouvons noter que dans les deux modèles, le manque de moyens est criant et dévastateur. Par exemple, aux États-Unis, il faut savoir qu'un médecin doit d'abord demander l'autorisation à l'assurance du patient s'il peut prescrire un médicament. Si l'assureur estime que le traitement est trop onéreux, il peut empêcher la prescription, même si le psychiatre est persuadé que c'est la bonne molécule. Et en France, même si des progrès importants ont été réalisés dans le domaine social et associatif, droit à l'allocation adulte handicapé, associations, groupes d'entraide mutuelle, le service public n'est plus capable, dans bien des endroits, d'assurer sa mission minimale, notamment voir un psychiatre. De plus en plus de personnes ne sont pas soignées ou doivent attendre une éternité avant de voir quelqu'un. Maintenant, je donne la parole à Beryl qui va nous parler d'une prise en charge originale des patients en Côte d'Ivoire.
En lien avec notre thème, j'ai trouvé un reportage de la chaîne Arte, un village au service des malades mentaux. Aujourd'hui, je veux zoomer sur le village de Trinlé-Diapeu en Côte d'Ivoire qui abrite le centre d'accueil Victor Wally. La particularité de cet endroit est qu'il adopte les principes de la psychothérapie institutionnelle. Thérapie, groupe de parole, accueil, liberté de mouvement. Ici, les malades participent aux tâches de la vie quotidienne et sont pleinement mêlés à la communauté. Il n'y a pas de distinction entre eux et le reste des habitants. Comme le dit avec justesse l'un des interviewés, quand il y a un mur, ça crée une distance entre le malade, le soignant et la société. Les soignants s'intéressent davantage à l'éclosion du trouble, à son origine et à l'histoire du patient. Il est accueilli à Victor Wally avec au moins un membre de sa famille pour éviter les abandons. Le principe est de les prévenir, mais pas que les patients restent à vie dans le village. Au bout d'environ 3 jours, les plus agités commencent déjà à être apaisés, se remettant de la maladie et parfois de violence, dont les principales causes sont l'ignorance et l'impuissance face à la maladie psychique. C'est bien grâce à cet aspect collectif et à l'écoute accordée qu'on constate une amélioration globale, parce que les traitements médicamenteux y sont administrés à faible dose. Vous pouvez retrouver le reportage « Un village au service des malades mentaux » sur YouTube. Ce doc a été réalisé par Niels Tavernier en 2020 pour Arte France.
Dans le village, il y a des clôtures nulle part. Tout le monde circule d'une cour à l'autre selon les trajets. Et vous avez dû voir, on est sur le trajet de la pompe à eau, c'est une des plus importantes du village. Donc de toute façon, ne serait-ce qu'avec la pompe à eau, il y a toute une circulation. Les femmes, les enfants, personne n'a peur, tout le monde circule toute la journée pour venir chercher de l'eau. Il faut traverser le centre de santé pour avoir accès à la pompe. Et ça, ça a toujours mis aussi une circulation assez magnifique.
On peut rajouter qu'à tous ces contrastes qu'on a évoqués, ces manques de moyens combinés parfois à des politiques désastreuses, s'ajoute un grand point d'interrogation, celui du sort psychique des personnes exilées. D'après Frontex, soit l'Agence européenne de garde-côtes et garde-frontières, 142 715 personnes en situation irrégulière ont été enregistrées à l'entrée de l'Europe, uniquement en 2022. Les contextes des traversées et de l'exil sont dévastatrices, traumatisantes, violentes. Une fois arrivés en Europe, les survivants vivent dans la terreur de la police et ne peuvent que rarement obtenir un hébergement et des ressources primaires. Quant aux conditions de vie dans les campements, elles sont désastreuses. À ces séquelles peuvent s'ajouter des troubles déjà présents dans le pays d'origine. L'accès à des soins psychiatriques est très limité, compliqué, quand il n'est pas impossible. Et la communication avec le personnel médical est obstruée, parce que les personnes exilées sont traumatisées, ont chacune une singularité culturelle qui n'est pas prise en compte. Les traducteurs sont rarement sollicités. En France, depuis mai, l'ONG Médecins Sans Frontières est de retour à Calais, où vivent actuellement entre 400 et 600 personnes exilées, pour promulguer une aide médicale et psychologique. Aujourd'hui, je ne vais pas davantage développer ce sujet, car il pourrait faire le sujet d'une prochaine émission. Merci à tous pour vos interventions. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de Canal B. Toutes les émissions du collectif Plus on est de fous sont réunies sous l'onglet Plus on est de fous, la carte blanche des usagers de la psychiatrie.
C'est la dernière émission de la saison. L'équipe remercie Canal B qui nous a permis de nous exprimer et de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas souvent, voire jamais. Ça nous tient à cœur aussi de dire un grand merci à Sarah qui a été à l'initiative du projet et qui a mis beaucoup d'énergie en veillant à la qualité des contenus et au bien-être de l'équipe. Ça fait aussi du bien de voir qu'il y a des personnes comme elle qui ne lâchent rien et qui se battent pour un meilleur traitement des usagers.
Je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle carte blanche.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à l'équipe de Plus on est de fous qu'on retrouvera au mois de septembre pour de nouvelles aventures. Je vous propose maintenant d'écouter le premier des trois épisodes d'un podcast réalisé en partenariat avec la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine et la ville de Rennes. Un échange enregistré au moment de la venue à Rennes de Clément Rivière, sociologue lillois. C'était jeudi 8 juin et le sujet est passionnant. Pourquoi les enfants des villes ne jouent-ils plus dans les rues, mais seulement dans des aires de jeux sanctuarisées? Pourquoi ont-ils tant perdu en autonomie ces dernières décennies? L'espace public est-il devenu hostile aux enfants ou les parents surprotecteurs? La ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement ont invité Clément Rivière, sociologue spécialiste de ces questions, pour nous apporter son éclairage dans la continuité des dernières rencontres rennaises de l'éducation qui posaient cette question. La ville à hauteur d'enfant, comment la construire concrètement ?
Il existe un ensemble de recherches qui ont été conduites par des chercheurs s'inscrivant dans différentes perspectives disciplinaires, des géographes, des psychologues, des spécialistes des mobilités, des historiens, des sociologues aussi dont je suis, qui montrent, pour le dire de manière simple et ramassée, qu'il y a une tendance en fait, de long terme de retrait des enfants des espaces publics dans les villes occidentales. Et donc ces travaux montrent que les enfants passent moins de temps sans adultes dans les espaces publics et que par ailleurs leur rayon de mobilité a diminué. cette évolution a été restituée de manière très efficace par des géographes néerlandais, notamment une géographe qui s'appelle Lia Karsten, qui est une spécialiste des enfants en ville, qui parle d'enfants d'intérieur, indoor children en anglais, tout comme on parle de plantes d'intérieur, et je trouve que c'est une formule très efficace. Moi, j'essaye dans mon livre, à partir notamment de souvenirs d'enfance des parents que j'ai rencontrés, de dérouler des fils d'explications. D'abord, j'insiste sur l'importance qu'il y a à prendre en compte la porosité entre les machines en fait, qui font progressivement leur apparition au cours de l'histoire et les usages qui sont faits des espaces publics. Et donc sur le temps long, l'apparition de la machine à laver, du frigo, du téléphone, tous les réseaux d'approvisionnement à domicile, plus récemment la télévision, l'ordinateur, font qu'on a moins besoin de sortir dans les espaces publics pour avoir accès à tout un ensemble de biens matériels ou immatériels, que ce soit pour consommer ou pour se divertir. Et donc, pour ce qui concerne les enfants, le smartphone est un très bon exemple de la façon dont ce progrès technique, pour le dire comme les économistes, a un impact potentiel sur les usages des espaces publics, puisqu'on peut rester chez soi tout le week-end tout en étant en contact avec ses amis pour des pratiques de jeu, pour des pratiques de sociabilité, sans avoir besoin d'aller dehors. Parmi toutes ces machines qui ont fait leur apparition au fil du temps, il y a évidemment l'automobile, qui a pris le contrôle des villes d'une certaine manière au cours du XXe siècle. Les automobiles, ça prend beaucoup de place. C'est une des deux principales menaces perçues par les parents, le risque d'accident de la circulation. Et par ailleurs, ça pollue. Et donc ça explique sans doute en partie le déclin du jeu libre dans la ville. Au-delà de ces objets, ces machines qui font leur apparition, il y a aussi une évolution des normes d'éducation, des normes de parentalité, avec d'une part un investissement plus marqué avec le temps, du temps extrascolaire par les parents et les familles, qui va laisser de moins en moins de temps disponible aux enfants pour le jeu. Et parallèlement à ça, une évolution des normes de parentalité qui érige en mauvais parents les parents qui laissent leurs enfants sans surveillance dans les espaces publics, parce qu'ils seraient exposés à tout un ensemble de risques, donc l'accident de la circulation d'une part, mais aussi celui de la mauvaise rencontre, qui est vraiment central dans l'esprit des parents que j'ai rencontrés, et le sentiment qu'ont les parents d'être exposés de manière continue à des faits divers, sordides, qui les inquiètent, qui les préoccupent, même quand ils ne pensent pas que ça pourra raisonnablement arriver à leur enfant. En fait, c'est comme une petite musique qui reste dans leur tête et qui les désincite à laisser leur enfant seul. C'est ces deux menaces qui vont permettre de comprendre comment se construit la prise d'autonomie des enfants dans la ville autour d'un gradient d'espace que j'ai décrit dans mon livre comme étant des espaces perçus comme plus ou moins protégés, à commencer par le domicile. Alors c'est un peu paradoxal puisqu'on sait que le domicile est un espace assez dangereux pour les enfants, notamment en lien avec tous les risques d'accidents corporels qui sont importants. Et puis par ailleurs, on sait aussi très bien qu'une des principales menaces pour l'intégrité physique des enfants, c'est les proches, les parents, les frères et sœurs, des membres de la famille, des personnes de confiance. Et donc c'est assez paradoxal, mais c'est très intéressant de relever que le domicile est perçu comme l'espace le plus sûr, alors qu'il est aussi un espace dans lequel les enfants peuvent être confrontés à des risques importants.
À travers son projet éducatif local, Rennes a l'ambition d'agir pour que chaque jeune puisse réussir et s'épanouir, quel que soit son quartier et son origine sociale. Tous les ans, la ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine proposent des rencontres publiques pour échanger sur l'éducation. Plus d'infos sur métropole.rennes.fr/éducation.
I said last time was the last time. They don't even know the story. They don't even know the pain. They don't get the message. I'm crying in the rain. Got to be good. Got to be better. Wanna be steps up from what I'm feeling now. I wanna feel good. Better. Better than all I'm feeling now. Got to be good. Got to be better. Wanna be steps up from what I'm feeling now. I wanna feel good. Better. Better than all I'm feeling now.
Got to be good par Good Street Park et Pip Millet. Une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par notre programmateur Yann Barbotin. C'est un single extrait d'un album à paraître le 13 octobre prochain chez Blue Flowers et qui s'appellera On the Inside. C'est le premier disque pour cette formation britannique entre soul et électro. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale. Je le dis régulièrement, si vous avez une action ou un événement annoncé aux auditeurs, que ce soit avec une association ou autre type de structure, tant que la visée n'est pas purement lucrative, vous pouvez m'envoyer l'info par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Après, je reprends contact avec vous pour vous proposer pourquoi pas un reportage sur le terrain, une interview avec moi ici en studio où on l'annoncera sous forme de billet. Et d'ailleurs, c'est l'heure de la recommandation du jour. Et c'est pas une, mais deux recommandations que je vous donne pour ce début de semaine. D'abord, une rencontre dédicace avec le journaliste breton Nicolas Legendre. Ça se passe mardi 13 juin à 18h au Théâtre de la Parcheminerie à Rennes, en partenariat avec le Club de la Presse de Bretagne. Et au cœur de la soirée, évidemment, le livre « Silence dans les champs », une enquête publiée aux éditions Artaud, dans laquelle Nicolas Legendre croise de nombreux témoignages pour raconter l'histoire du modèle agricole breton et puis les tentatives de mise au silence des voix discordantes. Rappelez-vous, on l'a reçu le 16 mai dernier dans l'émission d'info.
Je pense un certain nombre de gens qui ont pu subir tout ça, qu'il s'agisse de paysans ou de militants environnementalistes, c'est des choses qui ont été intériorisées en fait, qu'ils ont considérées comme étant non pas acceptables, mais en tout cas ça faisait partie de leur, ça faisait partie de la vie quoi. C'était comme ça. Ils étaient par exemple paysans encartés dans un syndicat minoritaire. On leur a fait les pires misères pour l'accès au crédit ou au foncier. Mais finalement, il n'y avait pas de guichet où se plaindre, et c'était comme ça, quoi. Et donc, il a fallu déjà trouver, aller à la rencontre de gens qui avaient pu subir ce genre de choses. Je précise que c'est pas systématique. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait un pas de côté ou qui ont critiqué le système dominant n'ont pas subi ça. Et donc, il a fallu les rencontrer. Ensuite, il a fallu les faire parler. Et parfois, pour certains, leur faire se rendre compte
que c'était pas normal,
que c'était anormal et que ça participait à quelque chose qui était qui ne les concernait pas qu'eux, qui était peut-être systémique.
Deuxième conseil de rencontre, c'est une soirée témoignages et débats organisée là mercredi 14 juin à partir de 18h30. Rendez-vous pour y assister à la Maison internationale de Rennes, quai Chateaubriand, pour rencontrer donc le collectif de soutien aux personnes sans papier qui vient nous donner des nouvelles de l'opération Wambushu qui est en cours à Mayotte depuis le mois d'avril. Que se passe-t-il là-bas? Peut-on parler d'une opération coloniale? Élément de réponse avec ce collectif qui mène une campagne d'occupation de bâtiments d'État pour protester contre cette opération. Je les cite, sous prétexte de délinquance galopante, le gouvernement français a décidé de mener cette opération massive d'expulsion de sans-papiers comoriens et de destruction de logements. Pour plus d'infos, il y a leur site internet sp35.org. C'est terminé, une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.